Eh bien, nous allons faire le travail, frères et sœurs. Le cœur de louange a fait sa part. Le président de culte a fait sa part. Les musiciens ont fait leur part, mais bien entendu, ils n'ont pas terminé encore. Eh bien, je vais faire ma part dans le Seigneur et pour sa gloire, pas vrai? Et nous allons regarder, nous revenons à ce texte que nous avions utilisé la semaine passée, les deux derniers dimanches, pour continuer la sous-série que nous avons commencée. Le texte que nous trouvons dans Hébreux, chapitre 12, les versets 28 à 29, à la gloire du Seigneur. Hébreux, chapitre 12, les versets 28 à 29. Nous allons lire ce texte pour que nous puissions continuer avec la sous-série qu'on a commencée. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Vous me connaissez, lorsque je prêche la parole, je reste toujours collé sur le texte parce que c'est une obligation qu'a tout prédicateur de l'Évangile. Mais j'avais promis clairement, en débutant cette sous-série, que je prêcherais ce message selon une approche de théologie biblique qui m'oblige à aller chercher dans le reste de la révélation de Dieu des éléments susceptibles de nous éclairer sur le passage lu. Donc, même si je ne reste pas sur le passage directement, et les éléments recherchés dans le reste de l'Écriture sont appelés à, eh bien, justement, me permettre de rester dans le texte. Donc, n'oublions pas cela. Nous avons commencé, frères et sœurs, à parler de la réunion d'Église du dimanche matin, comme celle que nous avons en ce moment, que nous avions eue le dimanche dernier, ou les autres dimanches passés depuis notre enfance. Je parlais de cette réunion pour dire que ce n'est pas une simple réunion. Ce n'est pas une réunion comme ça, ou une réunion, et encore moins, une réunion comme ci, comme ça. C'est une réunion extraordinaire. Plus extraordinaire que la réunion que vous avez en famille. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Plus extraordinaire que la réunion que vous avez avec Justin Trudeau, Donald Trump. Vous n'aimeriez pas avoir réunion avec Donald Trump. Hein? Alors on va dire avec Barack Obama. Plus extraordinaire que la réunion que vous avez au travail. Plus extra, pour vrai, hein? Plus extraordinaire que quand votre conseil d'église se réunit. C'est une réunion extraordinaire. La raison que j'avais avancée pour faire une affirmation aussi extraordinaire, c'est parce que eh bien, nous sommes ici à la convocation de Dieu. C'est Dieu qui nous convoque à être là où nous sommes, au moment où nous le sommes, et ici, ce matin. Et nous voyons cela dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous ne reprendrons pas le texte de convocation. Et d'une part, j'avais dit aussi, non seulement cette réunion n'est pas un jeu, et un jeu d'enfant, ce n'est pas une blague, et c'est une réunion importante parce que convoquée et à l'initiative du conseil divin, du conseil céleste, mais j'avais dit aussi que c'est une réunion extrêmement importante parce que Dieu siège au milieu de nous au moment où cette réunion se déroule. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? La présence de Dieu n'est pas un jeu. Si la présence des grands hommes de ce monde n'est pas un jeu, la plus forte raison que la présence de Dieu n'est pas un jeu, frères et sœurs. Dans certaines réunions, dans certaines assemblées humaines, lorsque le chef, lorsque le représentant, le responsable principal, le leader doit faire son entrée, il faut que l'assemblée se lève pour acclamer son entrée. Vous avez déjà vu ça de votre vie? Et le protocole humain veut que les convoqués, les invités, soit rentré d'abord avant que lui, justement, le chef, fasse son entrée dans l'enceinte où a lieu la réunion. Pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer de lui montrer et de reconnaître que sa présence est importante en se levant à sa présence, à son arrivée. Donc, cette réunion est importante pour cette autre raison, à savoir que c'est Dieu, eh bien, qui est au milieu de nous au cours de cette réunion-là. Et là aussi, j'avais invoqué un texte de l'Écriture pour expliquer cela, mais je ne reviendrai pas aujourd'hui sur ce texte-là. Nous voulons continuer. J'avais dit aussi que lorsque Dieu convoque son peuple, ce n'est pas pour rien que Dieu convoque son peuple. Dieu, bien sûr, convoque son peuple pour son bon plaisir, pour sa gloire. Parce qu'il est Dieu, c'est lui l'auteur de cette famille, c'est lui l'auteur du peuple, c'est lui qui a formé ce peuple. Le peuple est le troupeau de son pâturage, c'est son peuple. Il s'est forgé un peuple, à main forte et à bras étendus. Alors, en fonction de cette souveraineté, de cette propriété, il convoque. Mais regardez bien, ça c'est un niveau d'enseignement. Et l'autre niveau d'enseignement que Dieu convoque pour son plaisir, pour sa gloire, bien sûr, c'est évident, mais il convoque aussi pour bénir son peuple. Qui se rappelle de ça? Ah, c'est un autre niveau d'enseignement. Dieu convoque son peuple pour son bon plaisir, souverainement, pour sa gloire, pour recevoir de son peuple ce que son peuple lui doit, à savoir la louange, la gloire, ou alors on va dire des sacrifices. Dans l'Ancien Testament, c'était des sacrifices temporels, matériels, tangibles, visibles, des sacrifices qu'on pouvait toucher. Et dans le Nouveau Testament, ce sont des sacrifices spirituels. C'est ce qu'on avait dit. Autrement dit, le but principal de l'adoration, c'est la gloire de Dieu. C'est de glorifier Dieu. Mais malgré le but de culte d'adoration du dimanche matin en particulier, c'est de glorifier Dieu, eh bien, quand nous nous approchons de Dieu pour le glorifier, quand nous répondons à la sainteté de Dieu, à la grandiosité de Dieu, quand nous répondons à la grandeur de Dieu par notre présence au culte d'adoration, eh bien, il arrive que Dieu prenne soin de nous au cours de cette rencontre. Il prend soin de nous. J'avais dit que je ne suis pas d'accord avec les prédicateurs, les théologiens qui disent que quand on vient ici, on vient juste pour adorer Dieu. On vient aussi pour être béni par Dieu. C'est les deux qui se passent dans un culte d'adoration selon les textes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament que je vous avais lus et en l'occurrence. Il arrive que Dieu, en sa présence, fortifie son peuple. Il arrive que Dieu, en sa présence, augmente la foi de son peuple, fasse grandir, croître la foi de son peuple. Il arrive que Dieu permette à son peuple, en sa présence, eh bien, frères et sœurs, de prendre davantage conscience de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu. Il arrive qu'en la présence de Dieu pour l'adorer, le peuple puisse avoir son esprit rafraîchi dans la connaissance de Dieu et de son œuvre, frères et sœurs. Dans le Nouveau Testament, nous apportons à Dieu, j'avais dit aussi dimanche dernier, des sacrifices spirituels. Des sacrifices spirituels. Pourquoi j'en ai parlé? Quel est le rapport avec le passage lu? Et lorsque le texte nous dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Le rapport que l'énumération de ces éléments d'offrande spirituelle ou de sacrifice spirituel a avec ce texte, c'est que ça nous montre comment rendre à Dieu un culte qui lui est agréable. C'est ça le rapport. Dieu demande un culte qui lui soit agréable. Eh bien, j'ai commencé à regarder avec vous le contenu, le menu d'un culte agréable à Dieu. Est-ce que l'Église comprend la démarche pastorale, la démarche de prédication? Ça va là? Ça va? OK? Alors, et ainsi, nous avons regardé comme élément de contenu, de menu au menu d'un culte d'adoration le dimanche matin. C'est ce qu'il y a depuis le début de la réforme et c'est la Sainte Cène. Nous avons vu cela. C'est la Sainte Cène. Et nous avons dit que la Sainte Cène est un repas sacré. Nous trouvons cela dans le texte d'Actes chapitre 2 et les versets 42 à continuer. Et le repas du Seigneur, c'est une réponse du peuple de Dieu à son Dieu. C'est une offrande que le peuple de Dieu donne à son Dieu parce que nous venons à la table de Dieu par la convocation que nous avons reçue de la part de Dieu. Nous venons à la table du Seigneur parce que nous savons, un, que Dieu nous convoque à cette table et également à cette fête, mais nous le faisons parce que nous savons que Dieu est présent. La table, c'est la table du Seigneur. Et la Sainte Cène, dans le texte d'Actes 2, verset 42, et plus particulièrement au verset 42, est mentionné sous l'expression de fraction du pain. Donc, le Seigneur nous invite à communier avec lui. Il nous invoque, il nous convoque dans la grande assemblée le dimanche matin, et par rapport à la Sainte Cène, eh bien, il nous invite à communier avec lui en souvenir de la mort expiatoire, de la mort sacrificielle, eh bien, de notre divin Sauveur Jésus-Christ, qui a voulu par sa mort nous laver, nous purifier et nous délivrer de nos péchés par son sang. Ainsi, je disais aussi qu'en prenant part à la Sainte Cène, nous répondons à l'invitation de Dieu pour lui offrir un sacrifice spirituel dans la joie, dans la paix, dans la confiance et dans l'obéissance. Et en disant cela, j'ai dit, un chrétien qui ne participe pas à la Sainte Cène ne glorifie pas son Seigneur, du moins dans un aspect important de sa vie. Est-ce que l'Église est d'accord avec cela? Un chrétien qui ne participe pas à la Sainte Cène ne glorifie pas Dieu dans un aspect très important de sa vie. Nous sommes appelés à glorifier Dieu dans tous les aspects de notre vie. Alors, si Dieu institue la Sainte Cène, s'il nous convoque autour de la table du Maître, autour de la table du Seigneur, eh bien, nous devons répondre. Il est vrai que l'Écriture fixe des balises, des conditions suivant lesquelles il faut s'approcher de la table du Seigneur. Il est vrai que l'Écriture nous dit dans quelles conditions et comment pouvons-nous mettre la main dans le plateau et nous, eh bien, servir un morceau de pain symbolisant le corps meurtri du Seigneur, et comment nous pouvons mettre la main dans l'autre plateau pour prendre un verre de vin, symbolisant le sang et versé du Christ. L'Écriture fixe les conditions. Alors, il arrive qu'il y a des bien-aimés qui ne participent pas à la Sainte Cène parce qu'ils sont au fait de ces conditions-là. Ils sont au courant, ils sont informés de ces conditions-là. Alors, ce sont des chrétiens honnêtes, ce sont des chrétiens de bonne intention, de bonne foi. Mais néanmoins, l'Écriture dit comment régler les problèmes qui nous empêchent de mettre la main dans le plateau. Si on est au fait du fait qu'il ne faut pas mettre la main dans la condition dans laquelle on est tout aussi bien, par le fait même, au fait, on est censé savoir que, eh bien, il faut, numéro un, et numéro deux, prendre les conditions que Dieu fixe pour régler le problème. Il faut régler le problème. Parce que cela ne se peut de passer le reste de ses jours à ne pas communier. Quand on va arriver devant le Seigneur, il va nous poser la question. Souvent, c'est le pasteur qui ne peut pas vous poser des questions avec le temps qu'on est aujourd'hui. Mais le Christ, lui, peut poser des questions, il est roi. Est-ce qu'on est là à l'Église? Alors, il faut régler les problèmes qui nous empêchent de participer à la Sainte Cène. Et peut-être aussi, je le disais clairement, peut-être aussi, parfois, les gens ne participent pas à la Sainte Cène par ignorance. Peut-être qu'il y a un faux problème dans leur vie aussi. Ça fonctionne souvent par tradition dans nos églises. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Parfois, c'est pas où il dit que c'est un problème inventé, c'est un faux problème aussi. Mais joignez votre serviteur, votre pasteur, vous avez un pasteur maintenant. Alors, voyez votre pasteur, exposez-lui la situation. Si c'est un faux problème, avec la parole, il vous le dira. Est-ce que l'Église est là? Il y a deux chemins pour ceux qui ne participent pas à la Sainte Cène. Ou on n'y participe pas par ignorance, pensant qu'on a un problème, pourtant, en réalité, bibliquement, ce n'est pas un problème. Le problème ne m'appartient pas, c'est le problème de l'autre. Est-ce que l'Église comprend l'histoire ici? Ou bien c'est un vrai problème. Eh bien, si c'est un vrai problème, on se repent. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On change son fusil d'épaule. Si c'est un faux problème, eh bien, le pasteur dit non, c'est rien, sœur. C'est rien, frère. Vous pouvez continuer dans cet état-là.
Il est formé pour ça, il est instruit pour ça. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? Nous avions regardé également un deuxième élément au contenu, au menu du culte d'adoration du dimanche matin convoqué par le Conseil divin. C'est la prédication. Depuis l'Ancien Testament, hein, en passant par l'Église primitive, à la Réforme, après la Réforme, c'est toujours même bagaille. En fait, vous les connaissez déjà, les éléments. Je suis en train de les mettre tout ensemble pour vous, pour comprendre la démarche d'adoration, pour comprendre pourquoi vous êtes là le dimanche matin. Est-ce qu'on est là à l'Église? Mais vous saviez déjà ces éléments-là. Deuxième élément, c'est la prédication de la parole et l'écoute de la prédication de la parole. Votre serviteur vous a dit que le Dieu qui vous convoque est présent, mais la présence de Dieu n'est jamais muette. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu très expressif. Souvent, parfois, il est silencieux, nous le voyons. Nous le rencontrons silencieux dans l'Écriture. Mais en général, le Dieu que nous servons est un Dieu parlant, est un Dieu expressif, est un Dieu qui parle. Alors, si Dieu nous convoque, il nous parle. Et Dieu ne nous parle pas par notre silence. Nous parlons à Dieu par notre silence. Mais Dieu ne nous parle pas par son silence, du moins lorsque nous sommes en sa présence dans le rendez-vous du dimanche matin. Il nous parle, comment? Mais par sa parole, par le message de sa parole prêchée. Ainsi, j'ai ramené la situation pour rendre l'enseignement plus évident, plus clair, plus concret. J'ai ramené la situation au fait, eh bien, qu'il y a quelqu'un, ça peut être Sergo ou un autre prédicateur, qui se tient en chair, étant mis à part pour ce faire, étant mis à part par Dieu pour ce faire, et lui, il parle. Mais je vous ai dit, sachant que c'est Dieu qui nous convoque, quand Sergo parle, il parle de la part de Dieu. Dieu parle à travers Sergo. La parole parlée par Sergo, ce n'est pas la parole de Sergo, c'est la parole de Dieu. Est-ce que l'Église est là? C'est la parole de Dieu. Sergo ne sait rien. Qu'est-ce que Sergo peut avoir à dire au peuple de Dieu? Je disais, mais c'était sérieux, c'était pas par fausse modestie, pour vrai. Si le peuple de Dieu avait quelqu'un à écouter, ce ne serait pas Sergo. En pile dans là, nous instruit par Sem. Est-ce que c'est pas vrai? En pile dans là, nous instruit par Sem. Nous connaissons plus bagaille par Sem. Vous n'êtes pas ici pour m'écouter. Vous êtes ici pour écouter Dieu. Ainsi, quand ça paraît un peu difficile à écouter, quand ça touche des points sensibles de notre vie, ce n'est pas à Sergo qu'il faut parler, mais c'est à Dieu qu'il faut parler. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Quand, et j'ai lu un texte hier qui dit, quand les brebis se révèlent bruyantes, quand elles font du bruit, il ne faut pas s'adresser aux brebis, il faut s'adresser au berger. Hier, je lisais ça. C'est au berger qu'il faut s'adresser. Quand la parole s'avère un petit peu plus touchante, ça vient nous chercher dans notre confort, ça vient nous déranger dans notre confort, mais c'est Dieu qui parle. Que veux-tu que je fasse? Moi, comme frère, je gémis, je prie, je me prépare, je jeûne, je demande le soutien de ma famille, de ma femme pour m'aider, de mes frères pour m'aider à jeûner, pour m'assurer d'être biblique, de ne pas insulter le peuple de Dieu, de ne pas dire n'importe quoi, mais le reste ne m'appartient pas. Tout ce que tu entends, ça vient de Dieu. Ça va à l'Église? Ça vient de Dieu. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi. Alors, Paul dira à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Favorable ou non, comme ça, ça veut dire? Quand tu as le ventre rempli, quand tu as le ventre vide. Est-ce que l'Église est là? Ça peut être simple. Quand tu as de l'argent, puis quand tu n'en as pas, quand tu peux payer ta maison, prêche l'Évangile. Quand tu ne peux pas payer ta maison, prêche l'Évangile. Ça veut dire aussi, quand ton message est aimé, prêche l'Évangile. Quand il n'est pas aimé, prêche l'Évangile. Est-ce que l'Église est là aussi? Alors, c'est le défi pour ceux qui sont ici, qui sont prédicateurs. Mais j'avais dit que je viendrai ce dimanche, mais où le jour où je parlais, c'était l'autre dimanche, avec d'autres éléments. L'autre élément que nous trouvons au contenu d'un culte convoqué par Dieu, c'est la prière. Nous le connaissons tous. La prière est un autre moyen concret pour répondre à la convocation et à la présence de Dieu, frères et sœurs. Est-ce que ça va à l'Église? Un autre moyen efficace de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. La prière, c'est un peu comme les chansons. Vous savez, c'est quoi? c'est l'adoration par des mots. J'ai dit, nous adorons par notre silence aussi, on verra ça après. Mais juste pour le temps qui nous est imparti, commencez à retenir que la prière, c'est l'adoration par les mots. Mais parfois aussi, tu peux prier en silence également. Dans la Bible, la prière est présentée comme un sacrifice spirituel qui monte vers Dieu. Nous l'avons déjà dans Actes chapitre 2. Ça fait partie des habitudes spirituelles des frères et sœurs de l'Église primitive. Parce que le texte dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la prière. Ça, c'est une première base biblique. Et nous trouvons également dans Apocalypse 8, versets 2 à 4, Jean qui nous dit, je vous fais grâce du contexte, cela sera trop long, Apocalypse 2, verset 8, verset 2 à 4, « Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu. » Notez cela, « Les sept anges qui se tiennent devant Dieu. » Et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel. L'autel de la grâce, cette fois-ci. Ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums. Afin qu'il les offrit. Mais remarquez bien, le texte rajoute qu'il les offrit avec les prières de tous les saints. Donc, la prière est ici mentionnée comme une adoration, un sacrifice spirituel qui monte vers Dieu. Sur l'autel d'or qui est devant le trône, et le verset 4 nous dit, la fumée des parfums monta, avec, encore une fois, les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. 1 Timothée 2, verset 8, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, dit saint Paul, au pasteur Timothée, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » La vocation de la prière dans le culte corporatif, dans le culte communautaire du dimanche matin, frères et sœurs, eh bien, c'est notre réponse à notre Dieu. La prière doit le plus souvent être offerte à la première personne du pluriel. Souvent, nous prions au jeu, c'est tout à fait correct. Mais lorsque nous avons la claire conscience que la prière est un acte communautaire d'adoration, le plus possible, autant que faire se peut, nous prions au nous. Est-ce que l'Église est là? Par exemple, Seigneur, nous bénissons ton nom. Je bénis ton nom. Mais sachant qu'on fait la prière au nom de tous les saints rassemblés, convoqués, répondant à l'initiative divine, eh bien, nous faisons la prière au nous. Une fois de temps en temps, je parlerai au jeu ici, mais souvent je parle de nous. Et nous sommes appelés également à parler au nous lorsque, eh bien, nous y pensons. Mais parler au jeu, ce n'est pas un problème, frères et sœurs. C'est juste qu'une question de ceux qui comprennent bien la démarche, eh bien, l'aspect communautaire, corporatif, eh bien, de la prière comme acte d'adoration en Église, frères et sœurs. Eh bien, Seigneur, nous bénissons ton nom pour l'opportunité que tu nous donnes. Cela n'empêche pas qu'on peut prendre un petit temps à part pour prier Dieu pour sa famille, pour nous-mêmes. Eh bien, dans l'adoration communautaire, le dimanche matin, il doit en être ainsi. Ceux qui prient ne prient pas en leur nom. Ils prient au nom de tous ceux qui sont rassemblés. Bien important de comprendre cela. Et ceux qui sont rassemblés à leur tour, qu'est-ce qu'ils font après la prière? Je vais vous dire pourquoi je dis tout ça, quelle est la leçon à tirer. Et ceux qui écoutent la prière, eh bien, comment ils font après la prière? Ils disent tous Amen. Et là, on va l'atterrir, c'est le premier aspect du message. Les gens fin prier là, de pour pas dire Amen ou pas participer dans l'adoration. Est-ce que l'Église là? De pour fin prier là, peu importe problème ou gars, non. Sous vinadorex, qu'est-ce que ça veut dire venir ici ce matin? Il faut obligatoirement que tu dises Amen. Parce que, on en parlera, j'en parlerai tout à l'heure. Quand Dieu nous convoque, Dieu ne nous convoque pas pour être des spectateurs. Nous ne sommes pas des spectateurs en adoration. Nous sommes des acteurs. Est-ce que l'Église est là? Nous sommes des acteurs. Nous sommes des participants actifs à l'adoration à laquelle Dieu nous convoque. Tant nous regardons l'Église, où est là, nous allons regarder de façon structurée les différents éléments de l'adoration. C'est ça, nous voyons là. Même si on parle de silence. Il y a un paquet de bagailles qui n'est pas écrit dans la Bible. Il y a un paquet d'affaires ou de choses qui ne sont pas inscrites dans la Bible. Mais nous les faisons dans l'adoration. À partir du moment, parce que pendant que ce n'est pas écrit, mais ce n'est pas anti-biblique non plus. À partir du moment où nous avons fini de nous mettre d'accord sur ces choses-là, depuis où là, ou pas participer là-dedans, ou gros problème avec mon Dieu. Est-ce que l'Église est là? Rien que la paix du Seigneur soit avec vous, de ne pas dire oui, c'est go, amen, ou gros problème avec mon Dieu. Est-ce que l'Église a compris ça là? Ou pas te connaître? Ou pas te connaître? Ou pas j'aime faire le tout, peut-être ou toujours répondre. Bon exemple. Si seulement on dit nous prenons les visions de l'Église l'ensemble, de ne pas parler mes visions, parler avec nous, ou gros problème avec mon Dieu, ou venir là pour grand Messie. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? Si nous dit que nous prenons le thème annuel là, de ne pas participer avec nous, ou pas dans l'adoration. Soit m'a fait une lecture biblique, me dit à l'unisson, de ne pas lire avec moi parce qu'on parle mes textes, on peut parler même mon capri texte là ou pas dans l'adoration. Avec ça nous lit là. Est-ce que l'Église a compris là? On parle les pièces monde entrer devant Seigneur dans l'ignorance. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? Et alors, la prière nous est donnée. Je vais vous faire grâce du reste pour vous dire ceci, frères et sœurs. C'est un privilège extraordinaire que nous avons de pouvoir nous retrouver dans la présence de notre Dieu. J'en suis content de nous retrouver dans la présence de grand-maman, de grand-papa, de ta fiancée. J'en suis content, frères et sœurs. Il se trouve que nous nous trouvons dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, celui qui dit « J'agirai, qui s'y opposera ?» Ta place est là, ma sœur. Ta place est là, mon frère. Jouissez-en. Jouissez-en. Répondez. Nous sommes des gens privilégiés. Étant ici, nous pouvons communiquer à Dieu dans la prière. Et lorsque nous répondons à Dieu, regardez bien, le texte d'Hébreu nous enseigne noir sur blanc que nous sommes déjà dans le sein des saints de Dieu. On le savait déjà, pas vrai? Mais en répondant à l'adoration, nous matérialisons notre présence dans le Saint des Saints. Attendez bien, nous sommes déjà dans le Saint des Saints de Dieu. Nous sommes assis dans le ciel en Jésus-Christ. Mais le répondre à la convocation de Dieu le dimanche matin vient rafraîchir cette présence dans le Saint des Saints. Ça vient renouveler, ça vient bonifier, ça vient consacré, traduit, ça traduit cette présence dans le Saint des Saints. Vous voulez voir un verset? Le Esaïe, il était devant Dieu dans la vision. Là, il était ouais, ange, je t'ai prié, Saint, Saint, Saint. Qui ça le dit? C'est pas Dieu le dit assis sur son trône, frères et sœurs? Dans le Nouveau Testament, Dieu ne nous fait pas le voir assis sur son trône. Mais nous devons comprendre à la lumière de sa parole qu'il est là. Assis sur son trône, et puis ses anges, les frères et sœurs qui nous ont devancés dans l'éternité, ils ont chanté la gloire de Dieu avec nous là. Là. Là, pas n'importe quel lieu, frères et sœurs, parce que Dieu siégeait là-dedans. Là, pas n'importe quel lieu. Dieu est présent. Nous verrons cela tout à l'heure. Nous avons la liberté d'entrer dans la présence de Dieu. Alors demandons à Dieu de nous faire la grâce d'être participants à l'adoration que nous l'offrons le dimanche matin. Demandons à Dieu qu'il nous fasse comprendre eh bien, la réalité de cette vérité afin que nous puissions appliquer nos cœurs à l'adoration, frères et sœurs. L'adoration, ce n'est pas un faire semblant à partir des rituels extérieurs ou spirituels. Il s'agit de quelque chose de vrai. Il s'agit de quelque chose d'authentique. Ou tu adores le Seigneur, ou tu ne l'adores pas. Ou tu es dans l'adoration, ou tu n'es pas dans l'adoration. Ou tu es pour Dieu, ou tu n'es pas pour Dieu. Ou tu réponds à la convocation de Dieu pour l'adorer, ou tu ne réponds pas, mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Est-ce que l'Église est là? Ce chant, je vais le chanter parce qu'il est en anglais, il est en créole, il est en français, mais je ne vais pas la chanter l'autre parce que l'autre est en allemand ou parce que il a... Comprenez-vous ce que je veux dire? À partir du moment où toutes les chansons sont consacrées, il faut chanter toutes les chansons. À partir du moment où tous les textes bibliques sont consacrés, il faut lire tous les textes bibliques. À partir du moment où tous les prédicateurs sont appelés, il faut écouter tous les prédicateurs. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? L'adoration n'est pas une question d'adoration sporadique. Un moment, c'est l'adoration. Tout à l'heure, non, ça ne me tente pas. Ah, après, oui, je reviens. Ah, après, je repars. Ou alors, tout dépend du message qui aura été prêché. Là, je vais commencer à adorer à la fin de la journée. Journée a déjà fini, on perd du moment net. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rassure que nous sommes dans la présence de Dieu. Il dit, Hébreux 12, et regardez bien. Regardez bien, Hébreux 12, verset 18 à 19, même jusqu'à verset 23, c'est le contexte immédiat de Hébreux 12, verset 28 à 29. Hein? Aha! C'est le contexte immédiat du texte que nous avons lu pour la prédication. Qui ça le dit, le contexte immédiat? Vous et moi, hein? Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne. Hébreux 12, verset 18 à 19, pour commencer. Qu'on pouvait toucher, exemple, la montagne de Sinaï. Ce n'est pas de cette montagne que vous vous êtes approché. Cette montagne, c'est une montagne de colère. C'est une montagne de jugement. Est-ce que l'Église est là? Ce n'est pas de cette montagne que vous vous êtes approché en Jésus-Christ. Vous êtes approché de la montagne de la grâce. Vous êtes approché de la montagne de la bonté, de la compassion. Vous êtes approché de la montagne du salut. Pas de la montagne de la colère ou du jugement. Regardez bien. Qu'on pouvait toucher et qu'on était embrasé par le feu, là, nous étions touchés là. Nous songez, quand on touchait à cette montagne-là, les gens pouvaient être exterminés, ils pouvaient mourir. Eh bien, ni de la nuit, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, telles que ceux qui l'entendirent, même paroles la rue, frères et sœurs, telles que ceux qui l'entendirent demandèrent, eh bien, dit Moïse, assez, nous ne voulons plus entendre cette parole parler parce que nous avons peur. Est-ce que l'Église est là? Ce n'est pas de cette montagne que vous vous êtes approché lorsque Dieu vous convoque ici le dimanche matin. Je l'ai déjà dit, vous vous êtes approché de la montagne de la grâce, de la montagne du salut. Vous êtes approché de la montagne de consolation, du réconfort, la montagne de la guérison. Verset 22 à 23, oui. Mais vous vous êtes approché de la montagne de Sion, c'est-à-dire vous vous êtes approché du ciel. La cité du Dieu vivant, la Jérusalem, c'est... Ah! Pasteur, t'es parlé tout à l'heure de ange qui a adoré avec nous. Mais verset 1. Des myriades qui forment le cœur des... Ah! Tu n'es pas seul dans l'adoration ce matin, l'oratoire. Les saints anges adorent de concert avec toi. Est-ce que l'Église est là? Ah! De l'assemblée des premiers-nés. Tous nos devanciers dans l'Église, ceux de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament, maman, papa et autres. Nous nous approchons de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Inscrits dans les cieux fait référence au livre de vie. Ah, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes. Voilà la réalité du culte d'adoration sous Pat Conin. Sous Pat Conin, voilà la réalité. Voilà le sens et l'essence. Peut-être même la quintessence, la substance du culte d'adoration. Mais ça, culte d'adoration, y est. C'est un culte que nous rendons dans la présence de Dieu. Bon, mon est avec vous. Souvent, j'ai des obligations ministérielles, je travaille sous sa force, qui m'obligent de temps en temps à aller en l'air là, dans Jubéa, ou bien aller dans le bureau. Là. Mais normalement, sachant cela, il ne doit y avoir de va-et-vient là. Est-ce que l'Église est là? Badade, non? Nous, pasteur, pas un bon élève dans ça à la vérité. Est-ce qu'on est là? Pasteur, pas un bon élève dans ça à la vérité. De temps en temps, le ministère a fait ma faute déplacer. Mais normalement, sachant qu'on est la présence de Dieu, on ne toise pas là. Est-ce que l'Église est là? On ne toise pas son prochain là. On n'est pas indifférent là. Parce que Dieu là. Et puis, nous ne pas marcher là comme ça. Ou pas qu'on fait, bon, m'a parlé en général. Pourquoi? Parce que bon Dieu là, c'est go pas capable frapper pied fort. Veille m'a marcher pour me faire comme ça. Parce que m'aime l'école m'a marcher comme ça. marcher comme ça là. Regardez bien là, je monter en chair. Oui, je fais comme ça. Faut honnête, avant, ce n'est pas pour. C'est parce que je connais bon Dieu, vrai. Ou pas de problème à bruit-pied, je ne suis pas vrai. Bruit-pied, je ne suis pas dérangé. Si je fais ça, dans qui ça me dérange? Est-ce que l'église est là? Mais monter discrètement parce que je connais dans la présence de. Les prières à faire, traiter devant porte là, pas marcher, pas lever. Parce que peuple bon Dieu a parlé avec bon Dieu, peuple bon Dieu en contact. Est-ce que l'église est là? Les prédicateurs a prêché, s'ils disent page 20, page 20, c'est bon Dieu qui dit page 20. Et bon Dieu là, si vous parlez dans page 20, la prend note, la marquer. Est-ce que l'église est là, frères et sœurs? Alors, c'est extraordinaire. Le deuxième élément de l'adoration, à part la prière, vous comprenez que je vous ai fait grâce du reste. Un deuxième élément de l'adoration, un deuxième élément au contenu de ce que nous apportons à Dieu, à la place des brebis, des taureaux, des bœufs, ce que nous apportons à Dieu, à part la prière et la participation à la Sainte Cène et l'écoute de la parole de Dieu, ce que nous apportons à Dieu comme sacrifice spirituel, c'est ce qu'on est déjà très bien, hein, peut-être même bien passé maintenant. C'est les psaumes, les hymnes et les cantiques spirituels. Ah ah. Les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Quatrième, je fais tous les trois faillons. Parce qu'en réalité, c'est yon. C'est quatrième bagaille que nous portons par bon Dieu en lieu et place des brebis, des taureaux, des bœufs. D'accord? Où prenez-vous ça, c'est gros? Éphésiens 5. On peut lire, c'est le verset 19 qui nous intéresse, en la circonstance, en l'occurrence. Mais on peut lire verset 18 également. Allons donc. Hébreux 5, verset 18. Maximum, verset 19. Ne vous enivrez pas de vin. Pourquoi? Parce que c'est de la débauche. Soyez, au contraire, ou de préférence, remplis de l'esprit. Ah! Comment? Comment être rempli de l'esprit? Parce que ça quoi le dit après, c'est à la fois cause et effet. Ah! Ça quoi le dit après, c'est à la fois la cause et l'effet de la plénitude de l'esprit. Un chrétien rempli de l'esprit fait ça. Verset 19. Entretenez-vous par des. Pas tant d'anglais, on en lit ensemble, non. Par des psaumes, virgule, gagne en virgule, gagne virgule. Entretenez-vous, recommençons. Entretenez-vous par des. Virgule. Par des hymnes. Et par des cantiques spirituels. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ah ah. Mais quatrième bagaille, m'pote by bon Dieu, à la convocation de Dieu, c'est hymne, c'est cantique spirituel, c'est somme. Nous venons en présence, bon Dieu. Depuis qu'il y a un hymne qui a chanté, il faut nous chanter. Est-ce que l'église est là? Parce que c'est ça que nous venons faire. C'est pour ça que nous venons. Le gars somme qui a chanté, ou bien qui a lu, il faut nous participer. Parce que c'est ça que nous venons faire. C'est pour ça que nous venons faire. Mais c'est au gars là-dedans, oui. Je suis en train de vous dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce qui est au menu, au contenu du culte d'adoration. C'est pour capable qu'on ait qui sont venus faire là. Est-ce que l'église est là déjà? Tout simplement, oui. Je dois participer parce que l'Écriture nous dit que c'est ce que nous avons à offrir à Dieu, entre autres choses. Bon. Le terme psaume, vite, vite. Les désigner, il y a deux significations. Sa signification première, c'est les textes du sautier, c'est-à-dire les textes du recueil de psaumes. C'est lui pour la parler là. Est-ce que l'église est là? Paul dit, l'homme vient là, moi viens entretenu avec des psaumes, et toi tu viens m'entretenir avec des psaumes. Il y a dans la présence de Dieu, nous sommes convoqués pour nous entretenir les uns les autres. Hey, entretenir les uns les autres, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous fortifier, nous exhorter, nous instruire, nous édifier les uns les autres. Ou là, matin, pour la gloire de Dieu, en finale, ultimement. Mais on l'a pour venir édifier Sergo. Et Sergo est là pour l'édifier Nico. Nicodème. Et Nicodème est là pour l'édifier Ed. Eder. Entretien mutuel. L'édification mutuelle. Aha. Pas des sommes. Mais, le Paul dit, entretenez-vous par des sommes, non? Il ne voit pas seulement la parole lue. Il voit aussi la parole chantée. Parce que depuis l'Ancien Testament et au temps de Paul, les psaumes étaient mis en chanson, en chant, en cantique. On les chantait dans l'assemblée. Donc, entretenez-vous par des psaumes. Ici, c'est surtout les psaumes mis en chant, en chantant, en chanson. Les psaumes chantés, on les chante ensemble, mais quand je chante à ton édification, mais à la gloire de... Pas j'oublie ça. L'ovine là le dimanche matin, ou venez pour édifier l'autre monde qui l'a avec vous. Et yo même tout, yo venez pour yo édifier vous. Si vous pas chanter, ou pas répondre à obligation ça. Est-ce que l'église est là, frères et sœurs? Les hymnes, pasteur, c'est quoi? À part que les psaumes sont là pour magnifier, exalter, glorifier Dieu. Oh, et c'est pourtant, les psaumes sont là pour exalter la nature de Dieu, le caractère de Dieu. Sous les psaumes, c'est ce qu'on va prouver là d'ailleurs. Les psaumes sont axés sur Dieu, l'œuvre de Dieu, sa personne, sa nature. Lisez bien après ça. Et puis, il meurt lui-même. C'est quoi la différence avec les... D'abord, les trois, c'est chansons. Hein? Les trois, c'est chants. Hein? Vous êtes comme ça? Tous les trois, c'est chants, oui. Les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Tous les trois, c'est cantiques. Aha! Tous les trois, ce sont des cantiques. Ben oui, c'est cantique tous les trois. Maintenant, c'est quoi la différence? Pourquoi Saint Paul prend-il le temps, a-t-il le soin de les séparer? Mais parce que dans la réalité, ils sont séparés. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Les hymnes, ce sont des cantiques de louange destinés à la rédemption du Christ. Est-ce que l'Église est là? On a fait un peu d'études bibliques là, qu'on y a là. Les hymnes eux-mêmes, c'est des chants qui sont destinés à la gloire du Christ pour l'œuvre de la rédemption. C'est destiné aussi à la personne du Christ. Moi, par exemple, oui, vous pouvez venir à l'échange aujourd'hui là. Vous pouvez venir à l'échange aujourd'hui là. Je m'en fais un peu d'enseignement. Ça va l'église? Je vais donner quelques exemples. Hein. Les hymnes sont destinés à l'œuvre de la rédemption et à l'auteur de l'œuvre de rédemption, Jésus-Christ. Ça va l'église? Cantique spirituel, yo même, si les hymnes là pour témoigner, eh bien, de la rédemption du Christ. Les hymnes spirituels, les cantiques spirituels eux-mêmes, ils sont là pour toucher tout sujet spirituel. Les psaumes sont axés essentiellement sur Dieu. Les hymnes sont axés essentiellement sur Jésus-Christ et son œuvre. Les cantiques spirituels axés sur tout sujet spirituel. Bon, bon exemple. Quand on dit la B-I-B-L-E, c'est lui, ça, moi, Rémen, m'a chanté, ça, c'est un cantique spirituel. Lors dit, par exemple, merveilleux, merveilleux. Sauveur, non, merveilleux. Ça, c'est un cantique spirituel. On ne va pas répondre, on ne va pas répondre à l'enseignement. L'on dit, majesté, à lui la majesté, à Jésus. Vous connaissez la suite, hein? C'est nous, on a sa fin. Et ici, nous avons ici un hymne. Est-ce que l'église est là? Quand nous avons, il est le roi des rois, le Seigneur des... Seigneur, son nom est. Et ici nous avons un hymne. Est-ce que l'église est là? Mais, quand nous avons 126 chants d'espérance, quand le vol de la tempête, ça nous gagne là, ça nous gagne ici. Nous avons un psaume. Bon, bon élève dans la classe là, ça c'est un psaume. Quand nous avons en Christ seul est mon. Vous voyez le bruit que ce pasteur a dit ça? Vous voyez le bruit que ça? Quelle est la raison pratique pour laquelle je dis cela? Vous voyez ça tout à l'heure? En Christ seul est mon espérance. Ça, c'est quoi? Non, qu'est-ce qu'on a ici? Un hymne. Bravo. Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où peut me venir. Vous comprenez ça, ça veut dire? Vous comprenez ça? Vous comprenez ça, ça veut dire? Ça veut dire? On l'église. Qui chantait seulement somme, il y a un problème dans l'adoration. Est-ce que l'église comprend ce que je dis là? Mais c'est ça la pratique, c'est ça la conséquence pratique. Nous sommes tous ensemble dans ce là. Il y a une église qui chantait juste les sommes, comme quand le vent de la tempête, espérant Dieu, etc. L'église a un problème dans l'adoration, un trou dans l'adoration de l'église là. L'église a chanté seulement les hymnes, L'hexagone tourne à adoration, en tout cas adoration communautaire. Est-ce que l'église est là? Ou si l'hexagone, l'hexagone connaît l'église, ou pas qu'elle l'église, qui a fait bruit, qui a chanté seulement ticket yo. Parce que c'est un genre pichot, ça pique mon yo plus. Mon l'église, ça charge le problème lui-même, plus mal toujours. Est-ce que l'église est là, frères et sœurs? Pourquoi? Parce que la Bible dit, entretenez-vous par les toits. Est-ce que l'église comprend ce que je dis là? La Bible nous enjoint de nous entretenir par les toits. C'est les toits qu'il faut faire. Ce n'est pas une affaire de chance, ça passe mode. S'il passe mode, composez-en d'autres. Mais ça prend des sommes. Est-ce que l'église est là? Si les hymnes passent de mode, c'est correct. Composez-en d'autres, mais ça prend des hymnes. Il faut avoir les trois pour avoir une adoration communautaire ou alors par les chants équilibrée. Est-ce qu'on est d'accord avec ça à l'église? C'est important de comprendre cela comme ça. Et Paul dit, célébrant les louanges. Lorsque Saint Paul dit célébrant les louanges, on peut parler dans l'original mot hébreu avec ou non pour célébrer, qui parlait de pince et corde, en particulier la harpe. C'est ça veut dire, oui, on va aller directement au but. Célébrant veut dire les louanges, c'est tout ce qu'on fait avec musique nous là, instrument nous là. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Donc, l'évangile, l'aime tap grandi dans Baptiste là, il tap dit c'est og là, og sèche là. L'évangile, ça n'est pas cadré à la réalité biblique. Est-ce que l'église est là? Si on a des tambourineurs, frère Désina sera obligé de nous acheter un tambour. Est-ce que l'église est là? Si on a d'autres sortes d'instruments de musique, on a des barytones, frère Désina sera obligé de nous en acheter. Est-ce que l'église est là? Parce que à ce que je comprends de la parole, ça prend tout ça. Mais nous parlons des ordres, bien entendu. Est-ce que l'église est là? Sans désordre, ça prend tout ça. On ne peut pas faire l'économie, eh bien, de ce que le serviteur David nous dit ici, frères et sœurs, sous prétexte que nous sommes sous la nouvelle alliance. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits, célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez à lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et aussi vos... Bah, vous voulez me danser, à courir, à lever là, à faire un coup de tropicana là, mais ça prend de la bonne musique pour adorer mon Dieu ensemble. Ça va, frères et sœurs? C'est des choses qui divisent beaucoup les missions, les congrégations. Union fait ça, comment l'autre là, il est encore, ou alors, Fellowship fait ça, ou telle église fait ça. Non, non. La Bible ne dit rien là-dessus d'ailleurs. La Bible ne dit rien là-dessus, à part que l'Ancien Testament nous dit quelque chose. Le Nouveau Testament ne prend pas le contre-pied de la musique dans l'église. Avez-vous lu ça? Avez-vous remarqué ça? Le Nouveau Testament ne prend pas le contre-pied. Je ne sais pas qui côté congrégation qui parle de musique, en tout cas de la bonne musique. Je ne sais pas qui côté rejoindre ça. Parce que l'Écriture ne dit rien. Tout comme battre les mains dans notre union d'église, nous sommes des baptistes purs, des vrais baptistes, nous ne battons pas les mains. Mais de temps en temps, moi-même, les mal de l'autre côté seulement, on ne bat pas les mains. C'est des bagages qu'on n'est pas capable de contrôler, frères et sœurs. Il y en a qui vont taper les pieds. Bon, ça dépend encore de gens pour le faire lire. Depuis qu'on va faire des autres là-dedans, si on peut utiliser les pieds pour adorer le Seigneur, on va utiliser les pieds. Parce que ce pied, c'est bon Dieu qui m'a mené. Est-ce qu'on est là? Santé, c'est bon Dieu qui m'a mené. On a prêté là pour matin? Ou après-midi? N'oubliez pas. Nous sommes dans la réunion la plus extraordinaire qui soit. Je pense que réunion plus gros que réunion a fait là, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit réunis ensemble. À part réunion ça, c'est plus gros assemblée que nous avons participé là. Pourquoi? Parce que réunion, c'est réunion bon Dieu que lié. C'est lui, au sens où c'est lui qui l'a convoqué. Et il est présent. Par conséquent, nous devons être, je récapitule mon sermon. Par conséquent, nous devons être des participants actifs à l'adoration. Ça veut dire qu'on participe à chacune des choses qui se fait dans l'adoration. Ah, ouais, mais nous participons à chacune des choses qui se fait dans l'adoration. Nous répondons Amen au prix. Nous répondons Amen au prix. Nous écoutons la prédicat. Nous participons à la sainte. Et puis, les apprentis là, nous connaissons que nous apprentis devant le présent de Dieu. Nous faisons le moins de bruit que possible. Nous rentrons sur la pointe des pieds, si c'est possible. Est-ce que l'église est là? Et puis, si je ne pas chanter, je connais manquer un bagaille dans l'adoration parce que la Bible est moi pour moi entretenir ou pour m'édifier. Si je ne pas chanter, je privé de édifica. Et bon Dieu, pas d'accord à avec si je ne pas chanter. Ça va, frères et sœurs? Que le Seigneur continue de nous bénir ensemble.